Radio Grenouille.
Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure de la Grande Tchatche, le rendez-vous politique du journal Le Ravi en partenariat avec Radio Grenouille. Bonjour Michel Guéraud.
Bonjour Rafi Amal.
Avec nous pour cette émission, Jérémy Becchi, secrétaire départemental du Parti communiste des Bouches-du-Rhône. Bonjour.
Bonjour.
Une actualité dense, le plan banlieue, ou plutôt l'absence de plan, la mobilisation des fonctionnaires, la SNCF, sans oublier le local, qui est riche également en actualité. Mais auparavant, Jérémy Becchi, une tradition dans cette émission, c'est le portrait de l'invité, et c'est Michel Guéraud qui s'y colle.
Alors en 2002, à l'aube du troisième millénaire, l'euro devient monnaie officielle en France. Disney ouvre son parc d'attractions à Marne-la-Vallée. Jean-Marie Le Pen arrive au second tour de la présidentielle. Jacques Chirac est plébiscité par 82% des électeurs. Et Jérémy Becchi adhère aux jeunesses communistes. Vous aviez alors seulement 16 ans. Et vous voilà donc dans les rangs de l'organisation de jeunesse du PCF, l'héritier de la section française de l'Internationale communiste, également connue sous le nom de Comintern, fondée en 1920, au siècle dernier. Fils d'une mère kabyle et d'un père d'origine italienne dans les quartiers nord marseillais où vous avez grandi, vous êtes tombé très jeune dans le bain du militantisme. Pour fêter vos 20 ans, vous êtes déjà secrétaire de section du 13e arrondissement et membre de la direction départementale du PCF. Combatif sur tous les fronts, vous arrivez à cumuler engagement politique, études et activités professionnelles. Après des études d'histoire, où il était forcément question des luttes ouvrières, vous entrez dans une école d'assistance sociale. Mais bien entendu, à la Sauvegarde 13, entreprise sociale qui intervient dans le champ du handicap, vous adhérez à la CGT à 24 ans, où vous devenez rapidement délégué syndical. Rien d'étonnant, alors qu'âgé à peine de 30 ans, en 2016, vous siégez déjà à la direction nationale du PCF et au bureau de la puissante union départementale CGT des Bouches-du-Rhône. Et lorsque Pierre Dharréville s'est fait élire l'an dernier député à Martigues, c'est presque naturellement que vous lui avez succédé à la tête de la fédération PCF du 13. Elle se porte un peu mieux que la fédération locale du PS, vos frères ennemis, les héritiers de la SFIO, qui peinent à reconstruire leur maison sur un champ de ruines. Mais avec à l'arrivée à Marseille du tonitruant Mélenchon, avec l'effritement des bastions du communisme municipal, avec le « à droite toute » du macronisme en marche, l'horizon n'est pas vraiment radieux. Vos adversaires affirment que sous vos airs de jeune premier et vos allures de gendre idéal, vous êtes un apparatchik hors d'âge. Mais vos amis comptent sur vous pour insuffler une dynamique nouvelle en 2018, celle d'un bras de fer social de grande ampleur et d'un congrès extraordinaire du PCF. Camarades, vous n'avez pas fini de courir.
Jérémy Becchi, une réaction à ce portrait à la sauce ravie, bien sûr.
Bon, écoutez, dans l'ensemble, les informations sont bonnes. En tout cas, je vois qu'il y a un vrai travail d'investigation. Peut-être à la fin, sur le côté apparatique, c'est peut-être des informations à approfondir. On verra au cours de l'émission. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est plutôt exact, effectivement.
Alors, comme je le disais, l'actualité est dense. Pour la troisième fois depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron, les fonctionnaires sont en grève. Et pour la première fois depuis longtemps, très longtemps même, des dirigeants des principaux syndicats ont défilé ensemble sur la base d'un appel commun contre la mise à mal des, je cite, hein, des missions publiques, la dégradation des conditions de travail et le pouvoir d'achat. En même temps, à la SNCF, la grève se poursuit. C'est la 11e séquence de grève. Et pour l'instant, le gouvernement reste inflexible. Une réaction ?
Alors déjà sur les fonctionnaires, pour commencer, nous avons eu une première journée d'action le 22 mars dernier. Déjà des fonctionnaires avec un spectre syndical relativement large, c'était le cas encore hier. Ça commence aussi des fonctionnaires parce qu'on a un président de la République qui, depuis qu'il est élu, n'a de cesse de vouloir attaquer le modèle social français, le modèle hérité de 1945 et du Conseil national de la Résistance. Mais on a aussi un président qui, contrairement parfois à ses prédécesseurs, n'a pas de cesse que de casser le modèle social français. Il a aussi pour ambition de construire un nouveau modèle, un modèle social, un modèle hérité du modèle anglo-saxon, beaucoup plus libéral et qui fait table rase du passé. Et donc, effectivement, les fonctionnaires sont une étape importante, en tout cas le statut des fonctionnaires sont une étape importante dans la société que veut construire Macron, parce qu'il souhaite évidemment qu'il y ait de moins en moins de fonctionnaires, c'est d'ailleurs ses promesses de campagne, mais y compris des cheminots, d'entreprises publiques, etc. Et c'est pas anodin non plus s'il s'attaque, après s'être attaqué aux fonctionnaires, s'il s'attaque à la SNCF.
L'unité syndicale va se poursuivre ?
Alors, je le souhaite.
On rappelle aux auditeurs quand même que le but, enfin le projet du gouvernement, pardon, c'est la suppression d'à peu près 120 000 postes de fonctionnaires sur le quinquennat. Hein.
Bien sûr. Alors, je souhaite effectivement que l'unité syndicale, elle se poursuive, parce qu'on a besoin aujourd'hui d'avoir un véritable rapport de force avec le gouvernement. Et ce rapport de force avec le gouvernement, on arrivera à le créer que si on est le plus nombreux et le plus nombreuses possible. Donc, effectivement, on arrive, que ce soit à la SNCF ou que ce soit chez les fonctionnaires, à avoir un spectre syndical relativement large qui permet justement d'entrevoir des perspectives plutôt intéressantes. Mais vous rappeliez le chiffre de 120 000 suppressions de postes chez les fonctionnaires. Avant de venir, j'entendais les nouveaux chiffres du chômage qui repartent à la hausse. Alors tout le monde s'interroge en disant oh, pourtant on y a cru, on y a cru. Je ne crois pas que la solution pour réduire le chômage et pour y compris favoriser une redynamisation de l'emploi, ce soit de supprimer des postes de fonctionnaires ou ce soit encore de casser le code du travail pour faciliter les licenciements.
Michel Guéraud.
Alors, il y a un drôle de climat social, c'est-à-dire que ce mouvement dure, il s'essouffle pas vraiment, mais il décolle pas vraiment non plus. Il y a des temps forts et puis ça retombe un peu. La manif là, des fonctionnaires, elle était honorable, mais ça n'a pas été la plus extraordinaire qu'on ait vue ces dernières années. Votre sentiment là, sur ce mouvement en demi-teinte ?
Alors moi, je ne parlerai pas de mouvement en demi-teinte. Je pense qu'on est à la croisée des chemins, effectivement. On a une mobilisation qui est quand même une mobilisation plus que correcte au niveau national, mais qui visiblement, force est de constater pour l'instant, n'est pas en capacité de faire reculer le gouvernement sur à la fois la réforme de la SNCF, sur ses déclarations sur les fonctionnaires, ou encore Parcoursup avec les étudiants. On y reviendra peut-être un peu plus longuement tout à l'heure, ou je pense y compris avec l'augmentation de la CSG et des retraités, parce que dans les manifestations d'hier, énormément de jeunes, énormément de retraités aussi, qui, sur la base de leurs revendications, venaient apporter un soutien et converger avec les fonctionnaires pour dire non à la politique du gouvernement. Alors, on a une nouvelle journée d'action, celle du 26 mai, mais là, je suppose qu'on va en reparler également.
Alors, on est le 26 mai pour les auditeurs qui nous écoutent sur Radio Grenouille. Hein.
Mais voilà, donc cet après-midi, hein, dans quelques heures, nous avons 14h30 sur le Vieux-Port, effectivement, qui, je l'espère, sera aussi,
et partout
en France, effectivement, qui, je l'espère, sera une mobilisation qui donnera à voir de nouvel élan dans la mobilisation des salariés, des jeunes et des retraités.
Marée humaine, selon l'expression de Jean-Luc Mélenchon.
Marée populaire, me semble-t-il.
Marée populaire, c'est le terme officiel.
Voilà.
Marée humaine, marée populaire.
C'est pas un peu ambitieux, ça ? Enfin, à force d'annoncer des marées, et puis on voit des petites vaguelettes ou des...
Non, moi je pense que très sincèrement, on a la capacité aujourd'hui de réussir une grosse journée de mobilisation cet après-midi. Et d'autant plus que l'ensemble des organisations, 80 au niveau national, plus d'une vingtaine sur le département, font le travail. En tout cas, pour nous, ce qui est du Parti communiste français, on a produit 80 000 tracts, 5 000 affiches pour appeler à la mobilisation de cet après-midi. Et pour le coup, c'est quelque chose en laquelle nous croyons évidemment.
Alors il y a quelque chose qui n'a pas été facile, c'est cette espèce de convergence entre les organisations politiques et le mouvement syndical. Il y a des, semble-t-il, des réticences à cette convergence. La CGT, par exemple, c'est la première fois, là, sur cette date du 26, il y avait un précédent, je demande, à Marseille, mais sur le plan national, c'est la première fois que la CGT, en tant que confédération, appelle aux côtés des partis. Pour vous, c'est une bonne chose, ce positionnement de la CGT? Vous êtes aussi un dirigeant de la CGT et en même temps un leader politique?
Alors, je tiens à préciser que j'ai rendu mes mandats à la CGT depuis mon élection en tant que secrétaire départemental. Je tiens à l'indépendance syndicale. Hein.
Oui.
C'est fini le temps de la courroie de transmission du Parti communiste français.
Vous êtes quand même très proche du syndicat, toujours.
Bah, effectivement, mais je discute avec l'ensemble des organisations syndicales, y compris la CGT, bien évidemment. Non, sur ce point-là, effectivement, moi, la position qu'a été celle du Parti communiste français, y compris dans les Bouches-du-Rhône, c'est toujours de laisser la primauté de l'action contre les politiques gouvernementales à destination des salariés, aux organisations syndicales. Il se trouve que dans les Bouches-du-Rhône, l'Union départementale CGT, il y a déjà 3 ans et demi de ça, avait lancé ce qu'on appelait à l'époque un processus départemental, qui regroupait à l'époque 18 organisations politiques, syndicales et associatives, parce qu'on faisait le constat toutes et tous ensemble qu'on avait besoin de converger entre les organisations syndicales, politiques et associatives. Donc c'était plus facile à réaliser dans les Bouches-du-Rhône, et c'est pour ça que nous avons pu avoir le 14 avril une manifestation unitaire avec 60 000 personnes, je le rappelle, dans les rues de Marseille, regroupant déjà une quinzaine d'organisations politiques, syndicales, associatives.
Alors, ça, c'était la manif Stop Macron, il y avait Mélenchon.
Il y avait Mélenchon, il y avait le Parti communiste français, il y avait l'UDCGT, il y avait la FSU, il y avait Solidaire, le Mouvement de la Paix, etc. etc. Et c'est pour ça que c'était plus facile à organiser pour le 14 avril. Effectivement, là où vous avez raison, c'est que, en tout cas, de mémoire, c'est la première fois que la Confédération CGT se déclare disponible à l'organisation d'une telle manifestation. Et la position du Parti communiste français, elle est invariablement la même. À savoir que si les organisations syndicales considèrent que pour les salariés, aujourd'hui, il y a un besoin d'élargissement à d'autres composantes du mouvement social, que sont les organisations politiques ou les associations pour faire infléchir la politique du gouvernement, évidemment, on s'en réjouit et évidemment, on jouera le rôle qu'on doit jouer dans cette
mobilisation. On va parler explicitement, quand même, vous avez parlé vous-même de la courroie de transmission. La CGT a mis des années à se séparer, à prendre son autonomie vis-à-vis du Parti communiste. Et au sein de la CGT, il y a toujours des gens qui voient avec crainte cette forme de rapprochement, disant qu'il ne faut pas revenir dans des schémas qui sont dépassés.
Bien sûr, moi je ne suis pas un ardent défenseur de la courroie de transmission, loin s'en faut. En revanche, ce que je dis, c'est qu'il y a besoin de dialogue entre les différentes organisations. Aujourd'hui, on voit bien que le mouvement social, y compris un certain nombre d'organisations syndicales font le constat, qu'en l'absence de perspectives politiques crédibles, en l'absence de perspectives politiques réalisables pour l'ensemble des travailleurs, les luttes syndicales qu'ils organisent dans les entreprises de ce pays sont parfois en proie à des difficultés parce que il y a cette question de l'espoir ou de la perspective qui n'y est pas. Donc il s'agit que chacun, en toute indépendance, les organisations syndicales d'un côté jouent leur rôle d'organisation syndicale, que les partis politiques jouent leur rôle de partis politiques, c'est-à-dire pas simplement de soutien aux luttes, mais aussi de production idéologique, de pouvoir faire des propositions qui donnent des perspectives aux travailleurs de ce pays. Et je pense que de cette manière-là, chacun aura la garantie de son indépendance d'une part, mais aussi le respect de sa structure et de sa souveraineté.
Est-ce que vous pensiez que la fête à Macron, qui avait été initiative de François Ruffin, un député insoumis, mais un peu particulier, qui avait été élu d'ailleurs avec soutien du PC aussi.
Oui, avec une suppléante communiste d'ailleurs.
Est-ce que cette fête à Macron, vous faites partie des gens qui pensaient que c'était une bonne initiative un samedi, parce que certains avaient trouvé que ça arrivait vite après le 1er mai, qu'il y avait peut-être une confusion, il fallait laisser la place au mouvement social en termes de leadership.
Alors ça, on ne pourra jamais savoir s'il y aurait eu plus de monde le 1er mai, si le 5 mai avait eu lieu le 12. Toujours est-il que moi je vois aujourd'hui une multiplication de dates dans le mouvement social pour dire stop à la politique du gouvernement. Et donc ça montre un potentiel de résistance face à la politique de ce gouvernement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on entend de plus en plus les gens dire on a besoin de convergence.
Vous y voyez une celle de Ruffin par exemple? Vous y voyez la même démarche, le même combat, parce que certains disent que ça folklorise un peu le mouvement social, on se réunit, on fait des pique-niques. Est-ce que c'est ça la lutte sociale ou on a besoin de radicalité?
Mais moi je pense que la radicalité, elle n'est pas forcément à opposer avec un mouvement large et de masse. Donc on peut avoir aujourd'hui des initiatives du type le 5 mai qui sont complémentaires et pas en opposition avec des journées d'action syndicale telles que nous les avons connues ces derniers mois ou ces dernières années, et l'un peut nourrir l'autre. Moi c'est comme ça que je le vois, et d'ailleurs bien souvent on a aussi des personnes qui participent à ces deux journées d'action sans faire forcément le choix de date.
Franchement, alors, si on regarde en arrière, tous les mouvements sociaux des dernières années sont heurtés à une inflexibilité des gouvernements en place. Et celui-ci a l'air encore plus inflexible que les précédents. Est-ce que vous pensez pouvoir faire plier, et que les conditions sont réunies sans pis pour faire plier ce gouvernement qui semble avoir fait en particulier du dossier des cheminots, un marqueur de sa politique?
Alors, ce qu'il faut savoir, moi je ne serai pas aussi catégorique sur vous sur la question inflexibilité du gouvernement. Le gouvernement a, selon nos informations, il y a quelques semaines, voire quelques mois, au mois de mars de ça, demandé au préfet de faire remonter l'ensemble des jours de grève et des actions département par département, entreprise par entreprise. Ça témoigne malgré tout d'une fébrilité d'un gouvernement qui n'avait pas pris visiblement cette précaution-là à l'automne dernier, au moment des mobilisations contre la loi travail XXL. Donc on voit bien qu'il y a quand même un regard très précis des préfectures et donc du gouvernement sur la mobilisation et le climat social en France. Et le deuxième aspect, c'est que moi je considère que le gouvernement a fait de la question de la SNCF un véritable symbole, parce qu'il considère que c'est un des derniers gros bastions de résistance sociale, syndicale dans ce pays. Mais les symboles, pour ceux qui le manient, peuvent être extrêmement dangereux et peuvent se retourner contre eux. Parce que si, à l'inverse de ce que souhaitent Macron et son gouvernement, nous gagnons sur la question des cheminots, derrière, on sera aussi en capacité d'aller chercher le progrès social et pas simplement d'avoir des batailles défensives pour défendre des acquis qui datent depuis déjà de nombreuses années.
Le temps joue en faveur de la convergence ou la divergence vis-à-vis des syndicats, vis-à-vis de la sympathie que peuvent avoir les gens ?
Ben, écoutez, moi j'ai plutôt l'impression que ça joue en faveur de la mobilisation sociale. Il faut voir la journée du 26 mai. Je pense qu'il y a encore deux mois de ça, les organisations syndicales, politiques, associatives, les 80 organisations qui au niveau national appellent à la journée du 26 mai n'étaient peut-être pas mûres à ce moment-là pour l'appeler. Et au fur et à mesure des manifestations, des rencontres que nous faisons sur le terrain, des débats publics, on se rend compte de quoi ? De jeunes qui nous disent on a besoin de convergence parce qu'ils sont en prise avec Parcoursup dans les universités et les lycées. On a des retraités qui nous disent depuis le 15 mars dernier, nous on a besoin de convergence parce que tout seul on n'y arrivera pas sur la question de la CSG, et c'est les mêmes logiques que les jeunes, que les retraités, que les salariés qui aujourd'hui nous attaquent. Donc ce besoin de convergence, il émane en réalité de la base, et donc on a des directions syndicales, politiques, associatives qui commencent à se plier à ce discours-là.
Parlons chiffres, à 1 million de manifestants, vous vous dites c'est bon, c'est gagné, ou à moins vous vous dites bon bah finalement...
Moi je vous le dis, je dis que c'est gagné une fois que le gouvernement envoie Édouard Philippe à la télé et nous dire bon c'est bon, on recule et on abandonne tout. Voilà, moi je ne vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais effectivement, il faut une progression de la mobilisation, et 1 million ça serait évidemment un chiffre intéressant.
C'est ce que Mélenchon avait promis
écoutez,
régulièrement.
Écoutez, si on arrive à 1 million, j'en serais satisfait, mais j'en serais encore plus satisfait si ça nous permet de gagner. Moi, je préfère gagner plutôt que de me fixer des barres en termes de chiffres.
Un dernier mot sur la convergence. On a parlé de la convergence syndicale. Qu'en est-il de la convergence politique ? Aujourd'hui, le Parti communiste est avec les insoumis, même si il y a eu des bisbis. Les socialistes sont toujours font partie de la convergence ou ils sont à part ? On a vu Olivier Faure, le nouveau premier secrétaire, se faire exfiltrer dans plusieurs manifestations.
Alors, vous m'arrêterez si je me trompe, mais j'ai vu que le Parti Socialiste n'appelait pas à la mobilisation de ce samedi. En revanche, le Parti Socialiste dit qu'il condamne les réformes du gouvernement, donc il essaie d'avoir une position de l'entre-deux, à la fois de dire nous on ne partage pas ce que dit le gouvernement, et en même temps on ne fait pas partie de la mobilisation, etc. Le fait est, c'est que la difficulté elle n'est pas chez nous, elle est chez eux. Parce que quand vous avez toutes les organisations de gauche qui appellent à la mobilisation, les organisations syndicales qui appellent à la mobilisation, les associations qui appellent à la mobilisation, et y compris les militants socialistes qui sont dans les cortèges syndicaux ou politiques ces journées de mobilisation, la difficulté, elle n'est pas dans notre camp, elle est dans le leur. Mais aujourd'hui, je pense que nous sommes en capacité de rassembler l'ensemble de la gauche, mais l'ensemble des forces de progrès plus largement.
Alors, il y a une bataille de l'opinion, il y a aussi une bataille des chiffres. Les cheminots ont organisé une votation qui n'était pas reconnue par leur direction, et là, les chiffres sont tombés. 95% des cheminots qui sont exprimés sont opposés à la réforme. Inversement, il y a des sondages, et un récent, par exemple IFOP, JDD, 20 mai, qui dit que seulement 42% des Français soutiennent la grève des cheminots et que 58% des Français trouvent que les cheminots ont trop d'avantages. Alors, c'est pas gagné, là, la bataille de l'opinion, c'est...
Alors, c'est pas gagné, mais les chiffres évoluent, et je crois que c'est aussi ça le rôle des organisations politiques. On parlait tout à l'heure du rôle des organisations syndicales de défense des salariés, et aussi le besoin de perspectives politiques. Mais je crois que le rôle d'une organisation comme la nôtre, c'est aussi de faire un travail d'éducation populaire. On va à la rencontre des usagers, très régulièrement, avec du matériel, avec des réunions publiques, pour y compris démonter un certain nombre d'idées reçues sur le service public ferroviaire, et y compris sur le statut des cheminots. Donc je crois que la question des enquêtes d'opinion, des sondages, etc., elle est intéressante parce qu'elle donne une photographie à un moment donné, mais elles peuvent être y compris en forte évolution. Et je reprends ce chiffre-là, 42% des Français qui ont une opinion favorable du mouvement des cheminots dans le pays, ça n'a pas toujours été le cas, voilà, je peux le dire. On a eu des chiffres parfois bien en deçà, et ça témoigne que les Français se laissent de moins en moins berner par le discours du gouvernement sur finalement les cheminots seraient des nantis, etc., parce que finalement, on voit quoi ? On voit que le gouvernement, les nantis, s'en occupe, et il s'en occupe plutôt bien. Je pense ceux qui étaient assujettis hier à l'ISF, qui ont vu leur ISF supprimé. Je pense aux entreprises qui bénéficient de 20 milliards d'euros supplémentaires d'exonération de cotisations sociales, etc., etc.
Alors le gouvernement avance malgré tout. Donc le texte pour la SNCF, il arrive au Sénat. Les étudiants sont mobilisés, certains se mobilisent toujours, mais Parcoursup vient d'être lancé, fonctionne.
Ou dysfonctionne plutôt.
Dysfonctionne, on va voir. Voilà, hein. Ça fait 24 heures.
Oui. Mais on a déjà des premiers couacs.
Voilà, oui, il y en a quelques-uns.
C'était prévisible,
mais nous alertions depuis un certain nombre de temps d'ailleurs, au-delà même de la philosophie de Parcoursup.
On est sur un mois symbolique, on fête les 50 ans, et le Parti communiste, y compris dans les Bouches-du-Rhône, fête les 50 ans de mai 68.
Ce matin même.
Voilà. Et pourtant, la jeunesse, alors c'est vrai qu'elle est mobilisée, mais enfin, c'est pas non plus la déferlante dans les facultés, c'est pas...
Alors, il y a une mobilisation effectivement dans les universités. Moi, je ne jugerai pas s'il y a déferlante ou pas déferlante. En tout cas, il y a une mobilisation extrêmement intéressante des étudiants, peut-être un peu moindre des lycéens, et peut-être que le travail pédagogique, on a aussi à le faire en direction des plus jeunes et donc des lycéens, parce que ce seront les premières entre guillemets victimes de Parcoursup, puisque la sélection à l'université va avant tout s'orienter sur ceux qui ne sont pas encore à l'université. Mais je crois qu'effectivement, il y a besoin pour cette jeunesse aussi de perspectives. C'est-à-dire que la jeunesse, elle est en capacité de lutter si on est en capacité de lui proposer un autre modèle de société. Et donc aujourd'hui, on a un effort à faire à l'ensemble de ces organisations-là, qui appelons à la manifestation de cet après-midi, mais d'efforts pédagogiques, mais aussi de construction de notre modèle de société. Vous savez, la résignation, elle naît aussi de l'accumulation de défaites, ou alors de l'accumulation de batailles uniquement défensives. Vous savez, on a l'impression par moment que nos organisations de progrès sont des organisations qui se transforment en organisations conservatrices. Alors je dis ça de manière un peu provocante, mais...
Ah oui, parce que les étudiants, ils veulent conserver le statu quo finalement, puisqu'ils veulent pas du nouveau, de la réforme. Les cheminots, ils veulent garder leur statut, donc on est quand même dans la défensive là, clairement.
C'est pour ça que je dis ça de manière un peu provocante. Mais dans une société où vous avez près de 6 millions de chômeurs, 9 millions de Français qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, le statu quo n'est pas acceptable. Et l'essence même d'une organisation politique comme la nôtre, d'une organisation politique révolutionnaire, c'est de transformer le réel. Et donc il s'agit effectivement de parer les mauvais coups que veulent nous faire le gouvernement et les gouvernements successifs, mais en même temps qu'on résiste face à ces attaques que nous subissons, il faut être en capacité de proposer un autre modèle de société.
Un autre modèle de société, vous avez parlé de transformer le réel. Les zadistes, cette expérience zadiste par exemple, elle ne se revendique absolument pas des communistes, on ne vous entend pas non plus là-dessus, disant oui, cette expérience, on peut peut-être s'y accrocher, on peut peut-être en faire quelque chose. C'est quelque chose qui vous est étranger ?
Ah non, c'est pas quelque chose qui nous est forcément étranger. Après, pour le coup, il y a aussi une situation géographique extrêmement éloignée de la Bouche-du-Rhône, donc c'est normal que le secrétaire fédéral des Bouches-du-Rhône...
Vous avez aussi une opinion en tant que communiste au niveau national.
Bien évidemment, mais c'est normal qu'on l'entende pas sur ces questions-là. En revanche, l'expression du Parti communiste sur ce qui s'est passé, notamment les violences policières, etc., elles ont été à plusieurs reprises...
Non, mais le projet, au-delà de la violence policière, le projet d'inventer quelque chose de nouveau dans cette ZAD-là.
Alors, dans cette ZAD-là, ou d'une manière générale, moi je suis pour qu'on soit aussi créatif aujourd'hui. Je vais prendre un autre exemple, que la question des ZAD, mais après j'y reviendrai si vous voulez là-dessus. Mais par exemple, le développement d'entreprises de type SCOP, comme on a pu avoir sur le département avec Fralib, à l'issue d'une lutte qui a duré plus de 3 ans. Mais il y a d'autres exemples, les Madeleine Jeannette, Pilpa du côté de Perpignan, etc. On a des modèles qui sont pas forcément des modèles idéaux. Mais après, à un moment donné, il faut que nous on avance, qu'on arrive à faire reculer la prédation capitaliste sur les travailleurs, sur le foncier. C'est aussi le cas à Notre-Dame-des-Landes et avec la ZAD, avec des volontés de projets de développement d'aéroports qui sont aussi...
Alors pourquoi les communistes ne sont pas audibles vis-à-vis de ce problème-là ? Il y a un autre problème, celui d'une autre jeunesse qui est beaucoup plus radicalisée que les communistes, puisque bon, les communistes ont choisi d'être des communistes de gouvernement, enfin quand la gauche passe. Les Black Blocs, par exemple, c'est des gens qui sont... Que d'aucuns qualifient d'extrêmement violent. Qu'est-ce que vous pensez de ça d'abord et qu'est-ce que vous avez à proposer là-dessus ?
Alors moi je pense, sur les Black Blocs,
oui.
Ce que vous me dites. Bon.
Les zadistes, les Black Blocs, toute cette jeunesse, toute cette mouvance
qui tout à fait pareil.
Qui est très éloignée du Parti communiste. Hein.
Écoutez, moi je pense que les Black Blocs, par exemple, sont des organisations qui se revendiquent beaucoup plus de l'anarchisme en réalité que des mouvements communistes traditionnels. Et pour le coup, on n'a pas tout à fait la même conception, ni stratégique, ni idéologique sur un certain nombre de sujets. Effectivement, moi je vais le dire de manière très claire, moi je considère que l'action des Black Blocs sur des journées d'action syndicale qui visent à faire reculer le gouvernement sur un certain nombre de projets empêche par moment l'élargissement du mouvement social, parce qu'on a un certain nombre de salariés par crainte de débordement, de ci, de là, qui préfèrent ne pas aller sur des journées de mobilisation. Donc c'est à la fois regrettable. Moi, la seule question que j'ai, c'est pourquoi ces organisations-là, qui se considèrent totalement autonomes et indépendantes, n'organisent pas elles-mêmes des défilés, plutôt que de se raccrocher à des organisations qui sont des organisations de masse, pour le coup, sur des journées d'action de ce type-là. Après... qu'il puisse y avoir des discussions avec certains individus, etc. Il y a toujours des discussions. Simplement, le mode d'action aujourd'hui n'est pas celui privilégié par le Parti communiste, parce que nous avons une vocation, c'est être majoritaire et à créer un rapport de force suffisant. Juste un mot, si vous permettez, sur les Black Blocs. Moi, je pense que malgré tout, ça traduit dans une société où les inégalités, où les injustices sont de plus en plus criantes, un besoin de radicalité et de transformation immédiate du réel. Parce qu'on ne peut pas non plus proposer à une jeunesse en déshérence ou frappée par le chômage de masse, etc., des perspectives ou des solutions à 10, 15, 20 ou 30 ans. C'est pas possible. C'est aujourd'hui et maintenant qu'il faut apporter des solutions. Donc ça traduit ça, à mon sens, mais les réponses apportées ne sont pas, à mon avis, les plus pertinentes.
Michel ?
Alors, on a parlé de la fête à Macron, c'était un an de son élection, et puis il y a aussi, on arrive, c'est en juin, au premier anniversaire de l'élection de la nouvelle Assemblée nationale, il y a un groupe communiste avec un député dans ce groupe des Bouches-du-Rhône, Pierre Dharréville, dont vous avez pris la succession à la tête de la fédération, et ce groupe, il peine lui aussi à gagner en visibilité, en particulier, il est un peu éclipsé par le caractère tout aussi tonitruant du groupe Insoumis que peut l'être celui de leur leader Jean-Luc Mélenchon. Alors ce groupe, la place des communistes à l'Assemblée nationale et la relation aux Insoumis.
Alors sur le groupe, moi je ferai un constat que malgré tout par rapport à la précédente mandature, on a un groupe communiste à l'Assemblée nationale qui est beaucoup plus visible. 11 députés communistes qui est beaucoup plus visible que le précédent. 11 avec un fort taux de renouvellement. On parle souvent des carrières longues politiques, etc. Il y a eu 9 députés qui ont été renouvelés sur les 11. C'est quand même avec un rajeunissement certain, donc c'est quand même des choses plutôt intéressantes. Donc vous avez cité effectivement Pierre Dharréville, député de la 13e circonscription des Bouches-du-Rhône, mais je pense à Elsa Faucillon qui est députée de Gennevilliers, qui est une jeune députée communiste, je pense à Fabien Roussel, à Sébastien Jumel, à un certain nombre de parlementaires qui, pour le coup, font un véritable travail de fond, qui, en visibilité, certes, on n'est pas au niveau de la visibilité de la France insoumise, mais qui tient aussi, pas simplement à la volonté du Parti communiste, mais aussi à la volonté des médias, parce que c'est pas faute de ne pas vouloir passer sur les grands médias nationaux, mais si on nous en invite pas, c'est compliqué d'y passer. Je prends, par exemple, l'émission de France 2, l'émission politique la semaine dernière, l'ensemble des organisations politiques ont été invitées, à l'exception du Parti communiste français. Je trouve que c'est une anomalie parce que nous avons effectivement un groupe à l'Assemblée nationale, au Sénat, nous avons plus de 700 ou 800 mairies dans le pays, près de 13 000 élus locaux dans ce pays. On est une force politique majeure avec 130 000 adhérents et je trouve que c'est un déni de démocratie de la part du service public de refuser une invitation au Parti communiste français.
D'accord.
Sur un débat politique.
Vous qui êtes un jeune trentenaire, est-ce que vous pensez que André Chassaigne, qui est le président du groupe communiste à l'Assemblée nationale, devrait tomber aussi la cravate de temps en temps et faire un peu le show finalement, interpeller les gens.
Écoutez, moi je crois que c'est pas une question de cravate ou pas cravate. André Chassaigne est un homme à la fois de terrain, qui est reconnu d'ailleurs comme étant un homme de terrain. Il est capable, en plus de tomber la cravate, de mettre les bottes sur sa circonscription dans le Puy-de-Dôme et de faire le tour des fermes et de discuter, etc. C'est aussi quelqu'un qui a de grandes capacités oratoires. Après, peut-être qu'effectivement, il y a des réflexions à avoir sur des coûts médiatiques, parce qu'on est aussi dans un monde aujourd'hui qui a évolué, notamment la question de la communication, des coûts médiatiques, du buzz, comme on dit, est de plus en plus importante. Alors c'est parfois dommageable parce que parfois le coût médiatique se substitue au fond finalement aux orientations des organisations. Et je pense que le Parti communiste français a besoin d'articuler intelligemment les deux, c'est-à-dire de pouvoir faire parler de lui tout en conservant une droiture idéologique et un contenu de qualité.
Vous diriez aujourd'hui que Chassaigne, c'est le communisme à la papa ?
Non, pas forcément. Moi, j'ai beaucoup de respect pour André Chassaigne, qui est un député qui réalise un formidable travail. L'an passé, il a été élu le député le plus productif, à la fois en commission, mais aussi en termes de questions au gouvernement. Il réalise un formidable travail auprès, notamment, du monde agricole, des paysans, etc. Et donc, non, effectivement, on a besoin de députés comme André Chassaigne, mais on a besoin de différents profils également.
La Grande Tchatch, l'émission du Ravi sur Radio Grenouille.
La Grande Tchatch, le Ravi sur Radio Grenouille, avec nous Jérémy Bacchi, secrétaire départemental du Parti communiste et des Bouches-du-Rhône, Michel Guérin.
Alors André Chassaigne, on ne va pas personnaliser, mais qui fait partie de ces communistes qui disent « Attention, on va se faire bouffer par Mélenchon, le Parti communiste doit parler de sa propre voix ». Il a déjà disparu des radars aux deux dernières élections présidentielles et il ne faut pas que ça dure. Votre avis là-dessus ?
Alors moi, mon avis, c'est que les deux ne sont pas incompatibles. On peut discuter avec d'autres organisations politiques.
Vous êtes un peu macronien quand même, hein. C'est
En même temps, non, je suis plutôt un rassembleur et je considère que la division de la gauche est plutôt un frein aux idées progressistes plutôt que l'inverse, tout simplement. Donc effectivement, moi je considère qu'on peut discuter avec d'autres organisations politiques, que ce soit la France Insoumise ou d'autres organisations progressistes, et en même temps avoir une autonomie de discours, de pensée, d'action du Parti communiste français. Et même au contraire, je pense que c'est plutôt souhaitable parce que ça permet d'avoir des discussions équilibrées avec l'ensemble des forces politiques.
Alors Mélenchon, quand ce que vous venez de dire, il va parler de tambouille. Il va dire ça suffit la tambouille, les gens veulent de la clarté. Non, non, il faut être clair, il faut trancher. Quoi.
Ah ben c'est extrêmement clair ce que je dis. De dire il faut rassembler l'ensemble des forces de progrès dans ce pays.
Quel est le périmètre de l'ensemble? Est-ce que ça va du Parti socialiste
Ah ben écoutez, moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est que c'est le contenu qui doit rassembler. La question, c'est aujourd'hui, c'est pas une question d'individu, parce qu'effectivement, si nous étions uniquement sur des aspects de personne ou d'organisation, on serait clairement sur de la tambouille, sur je te donne un poste pour avoir ton soutien, etc., etc.
C'est ce qui s'est passé plus ou moins derrière.
Sauf que c'est parce que
c'est ce qui s'est passé plus ou moins aux dernières législatives. Ça a été tendu entre les communistes et la France insoumise. Jean-Luc Mélenchon a été élu avec le soutien du Parti communiste. L'absence d'accord a certainement coûté la députation à Jean-Marc Coppola. Donc,
vous êtes en train de me dire que Jean-Luc Mélenchon ferait de la tambouille, c'est ça?
Vous y participez un petit peu, quand même.
Non, moi, j'appelle pas ça de la tambouille. La position du Parti communiste français sur les dernières élections législatives, elle est très claire. C'est de dire, nous avons sur le département, au regard des scores réalisés par Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle, avec le soutien du Parti communiste français, nous avons la possibilité, sur un certain nombre de circonscriptions, de faire élire un député de progrès, qu'il soit étiqueté France insoumise ou qu'il soit étiqueté Parti communiste français. Nous avons cherché à avoir un accord de ce type-là pour répondre aux besoins des populations. Nous avons donc fait le choix unilatéral de dire nous ne présenterons pas en face de Jean-Luc Mélenchon un candidat. Ça n'aurait pas eu de sens. Nous l'avons soutenu à l'élection présidentielle et on lui présenterait un candidat face à lui sur l'élection législative. Ça n'aurait pas eu de sens. Et nous l'avons fait sur un certain nombre d'autres circonscriptions où nous considérions qu'il y avait une possibilité de victoire pour un candidat de progrès ou de circonscriptions où il y avait un réel danger d'une victoire du Front National. Je pense notamment au 13e et 14e arrondissement.
Est-ce que la France insoumise n'est pas tentée par des logiques hégémoniques et une volonté de, finalement, d'avoir le leadership, hein, de laisser peu de place? Est-ce que vous n'êtes pas confronté à ce problème, les communistes?
Écoutez, ça aurait pu être une discussion qu'on aurait pu avoir il y a quelques mois de ça, notamment après les élections législatives. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, au contraire, la France insoumise est en train de changer un peu son braquet. Je pense notamment à l'initiative de François Ruffin, qui appelle, mais pas simplement le 5 mai. Je pense à l'initiative qu'il y a eu commune avec Pierre Laurent, Benoît Hamon autour du train, Olivier Besancenot également, de volonté de rassemblement. François Ruffin, depuis le mois de janvier, multiplie des tribunes dans ce sens-là. Clémentine Autain, députée de la France Insoumise, parle d'un rassemblement des forces de progrès sans aucune hégémonie avec le respect de l'ensemble des composantes. Et on voit aujourd'hui une France Insoumise qui participe à des manifestations organisées nationalement et localement avec l'ensemble des autres organisations politiques. Moi, pour rien vous cacher, la manifestation du 14 avril, j'étais à la bande de tête entre Olivier Matteux, le secrétaire général de l'UDE, et Jean-Luc Mélenchon. Nous avons eu des discussions tout à fait cordiales avec ce besoin finalement d'unité, de rassemblement qui se faisait ressentir sur Marseille et 60 000 personnes qui étaient dans la rue avec nous ce jour-là.
Il vous calcule Mélenchon, c'est le député de Marseille, vous êtes le leader du Parti communiste des Bouches-du-Rhône. Il y a une discussion possible ou alors il passe en coup de vent comme ça,
c'est à venir. Le 26, il est à Marseille, il n'est pas à Paris.
Oui, je sais bien qu'il est à Marseille. Non, je sais, effectivement. On aura le 26 sûrement l'occasion de discuter, y compris longuement à ce moment-là. Mais oui, effectivement, nous avons des fois des discussions sur des sujets parfois très précis et très politiques et parfois des discussions beaucoup plus légères, mais comme chacun peut en avoir avec des gens avec qui il travaille. Parce que la réalité, c'est que quoi aujourd'hui? C'est que sur une ville comme Marseille ou sur le département, on se retrouve souvent avec les militants de la France Insoumise quand on va distribuer pour la défense de la SNCF ou sur l'accueil des migrants, notamment. On n'en a pas parler, mais la situation sur Marseille et sur le département est assez catastrophique. Voilà, on se retrouve souvent sur des actions militantes ensemble. Donc, même s'il n'y a pas forcément de discussion devant les caméras, les micros, etc., il y a des discussions au niveau à la fois des militants, mais aussi des responsables politiques de ces organisations-là.
Alors, il y a des élections qui arrivent, les européennes, et là, on a l'impression qu'à nouveau, ça va être dur quand même. Hein. La France Insoumise semble vouloir partir un peu seule. Alors, peut-être que les choses vont changer. Est-ce que vous êtes... Alors, votre point de vue là-dessus, sur cette projection, alors, c'est pas tout de suite, mais ça arrive vite quand même, ces élections européennes.
C'est dans un an.
Donc on commence à préparer, j'imagine, dans les partis, dans les mouvements. Votre avis, il faut faire l'union et il faut...
Oui, moi je partage
c'est
l'idée
possible.
De... Alors, écoutez, ça fait deux questions. Je vais répondre en premier à la première, je répondrai dans un second temps à la seconde. Le Parti communiste français, par l'intermédiaire de son secrétaire national, appelle depuis un certain nombre de semaines maintenant au rassemblement de l'ensemble des forces de progrès sur les élections européennes. Pardon.
Il a encore de la voix, il ne s'est pas enroué?
Parce
qu'il n'y a pas beaucoup d'écho à ces appels.
Je pense qu'il a encore de la voix, mais je pense qu'un parti politique, ce n'est pas forcément un seul dirigeant et que la voix, on peut la porter à plusieurs. Et c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est aussi pour porter la voix de mon organisation. Donc effectivement, moi je crois qu'on a la capacité aujourd'hui d'avoir un rassemblement un peu plus large que ce qui nous est promis pour les élections européennes. Et on voit bien dans les premières projections, même s'il faut toujours très, très souvent se méfier des sondages, que la part belle, elle est faite à qui en réalité ? À Macron. Elle est faite au Front National et voilà, et on en arrête là. Et sauf que lorsqu'on est comme nous attaché au progrès social, à l'émancipation humaine, etc., on ne peut pas s'arrêter à la division des forces de progrès dans ce pays.
Alors, autre sujet parmi les annonces du gouvernement, des annonces plutôt solennelles, celle du plan banlieue. Alors, dans les 1300 quartiers prioritaires en métropole, le chômage touche un quart de la population en 2016, contre moins de 10% ailleurs. Parmi les moins de 30 ans, le taux de chômage atteint 35%. Pourtant, pas un plan de ville, ni un plan banlieue, car en 2018, cette stratégie, je cite le président de la République, est aussi âgée que lui. On est donc à bout du dispositif, selon Emmanuel Macron. Le chef de l'État entend donc changer de méthode. Est-ce que vous êtes... Quelle est votre réaction sur cette non-annonce ?
Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire, la réaction sur quoi ? Pour l'instant, le président Macron n'a rien proposé.
Il y a quand même des secteurs clés.
Je sais bien,
la date
en réalité,
butoir, c'est au mois de juillet, mais voilà, il y a quand même des annonces.
En réalité, la vraie annonce qu'il fait, c'est moins d'argent public pour développer les quartiers populaires, les banlieues, etc. C'est ça, la réalité de l'annonce du président Macron. Or, aujourd'hui, de quoi on souffre dans les quartiers populaires ? Un, la désertification des services publics et des services de proximité, c'est la première des choses. La question du vivre ensemble, elle se fait aussi parce qu'il y a des lieu de rencontre, d'échange, etc. La deuxième, et vous l'avez dit, c'est la question de l'emploi.
Là-dessus, le président de la République a dit qu'il y aurait une création d'une agence nationale de cohésion des territoires, un opérateur de rattrapage qui permettra dans les quartiers comme dans les zones rurales de mobiliser des financements publics justement pour ramener un petit peu.
Et vous demanderez au président Macron s'il compte ouvrir des bureaux de poste ou des hôpitaux de proximité dans des quartiers ou dans des villes fortement populaires. Voilà. J'en doute fortement. Moi, la deuxième question, c'est la question de l'emploi. La question de l'emploi. Il y a une stratégie qui a été faite en France, mais qui ne remonte pas à hier, qui est de dire on supprime notre industrie, parce que la réalité c'est ça, et on devient un pays de services. Et donc, on a progressivement, au fil des années, supprimé tout un tas d'emplois. 1 million d'emplois industriels sur les 10 dernières années, c'est quand même colossal, qui étaient parfois des emplois peu ou pas qualifiés. Et aujourd'hui, lorsqu'on fait le ratio entre emploi sur un territoire et qualification de la population, notamment dans les quartiers populaires, on se rend compte qu'il y a un écart démesuré, notamment sur Marseille. Et donc, il faut avoir à nouveau une politique ambitieuse en termes d'emploi, en termes y compris d'emploi qualifié, pour rendre adéquate finalement l'offre d'emploi, mais aussi le niveau de qualification. Donc il faut agir sur les deux leviers, à la fois la formation des Françaises et des Français les moins qualifiés, mais aussi la création de nouveaux emplois, peu ou faiblement qualifiés, pour permettre à toutes et à tous de pouvoir accéder à un emploi. Alors, c'est ça la problématique aujourd'hui.
Parmi les autres points importants qui trouveront une solution selon le président de la République, du moins un plan sera présenté au mois de juillet, c'est celui de la lutte contre les trafics de drogue. À Marseille, on est tristement connu pour ça. Le président de la République a dit qu'on avait perdu la bataille des trafics dans de nombreuses cités, dénonçant un embrasement. Il a également déploré la grande violence qui gangrène ces quartiers. Vous êtes élu, vous êtes de ces secteurs-là, les quartiers nord. Un mot sur cette annonce et surtout cette politique sans financement. Quoi.
Alors, moi, ce que je veux dire en premier, c'est que moi, la première réaction qui me vient lorsque j'entends ça du président de la République, c'est de dire de qui se moque-t-on ? Le président de la République, il dit je vais supprimer 120 000 emplois de fonctionnaires. Lesquels ? Les douanes ? Les policiers ? Les infirmiers ? Parce que aujourd'hui, la problématique qu'on a
les
sur le trafic de drogue.
Les policiers, c'est sanctuarisé.
Oui, mais donc ça veut dire quoi ? Les douaniers ? Les douaniers qui peuvent faire des investigations, qui peuvent faire des contrôles sur le trafic d'armes, sur le trafic de drogue, dans une ville comme Marseille, sur le port. C'est ça qu'il veut supprimer. Et en même temps, il dit « je compte lutter contre le trafic de drogue ». C'est du foutage de gueule, permettez-moi l'expression, c'est du foutage de gueule. Donc, la réalité aujourd'hui, c'est qu'on a un président de la République qui dit « toujours moins de moyens publics pour lutter contre les trafics, les réseaux, etc. » et qui fait des annonces, simplement des annonces. Rien de plus, rien de moins.
Revenons sur la question des quartiers. Marseille, par exemple, c'est votre territoire. Hein.
Oui, oui.
Il y avait un député communiste dans ce quartier-là. Il y avait une mairie de secteur communiste. Ce n'est plus le cas. Est-ce que ça veut dire que, pourtant, alors que s'expriment des besoins que votre discours pourrait peut-être satisfaire, ou en tout cas rencontrer un accueil, qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes plus audible. Pourquoi cette... disparition institutionnelle du parti.
Moi, je dirais pas qu'on est plus audible, parce que l'influence du Parti communiste sur un certain nombre de quartiers marseillais reste quand même colossale. Moi, je vais le dire comme ça. J'ai pas accepté de devenir secrétaire départemental du Parti communiste français pour gérer l'existant. Hein.
Colossale, il n'y a plus de mairie, il n'y a plus de députés.
Oui, mais quand
ce qu'on appelait la ceinture rouge.
Oui, mais quand sur certains quartiers vous faites 20-25% et que vous arrivez en première ou en deuxième position sur certains quartiers, je considère que c'est une influence colossale. Quand plus largement, en dehors de Marseille, vous gérez un certain nombre de communes, de grandes communes sur le département, je pense à Arles, je pense à Martigues, Septem, Gardanne, Port-de-Bouc, etc., etc., il y a une influence réelle du Parti communiste français sur ce département, peut-être d'ailleurs plus qu'ailleurs ou plus que dans d'autres départements.
C'est du Parti communisme français ou c'est du communisme municipal ?
Ah ben moi je pense que c'est à la fois les deux, c'est-à-dire que le communisme municipal nourrit aussi le Parti communiste français. Il suffit de voir des élections nationales pour que se rendre compte que dans ces communes-là, les scores du Parti communiste français dépassent allègrement les 20, 25, parfois 30%. Certaines communes, je pense au Rove, on dépasse les 40%. Voilà. Donc c'est à la fois le Parti communiste français qui naît et qui nourrit le communisme municipal et réciproquement. Voilà. Donc juste pour terminer sur Marseille et sur l'influence du parti, effectivement, moi je considère qu'on a des possibilités de reconquête sur cette ville, mais pour répondre à la question de pourquoi on a perdu aussi un certain nombre de mairies, et surtout le poste de député en 2007, c'était Frédéric Dutot à l'époque, on était aussi dans une configuration qui avait un peu changé, à savoir un scrutin législatif qui arrive 15 jours, 3 semaines, un mois après l'élection présidentielle, et le parti qui, pour le coup, est sorti gagnant, même s'il n'a pas été vainqueur au second tour, a pris une bonne avance sur l'ensemble des autres organisations politiques, et c'est ce qui s'est passé en réalité en 2007, où Ségolène Royal, même si elle est battue par Nicolas Sarkozy, réalise un bon score sur ces quartiers-là, et des gens qui ont voté pour le Parti Socialiste et Ségolène Royal, parfois aussi pour un vote utile à ce moment-là, n'ont pas eu le souhait de se déjuger un mois après en votant pour une autre étiquette politique à ce moment-là. Alors, mais on y travaille.
Alors vous l'avez dit, on peut le dire explicitement, mais les Bouches-du-Rhône, dans le paysage national, restent un bastion communiste, mais en même temps, un bastion qui s'effiloche. Alors vous avez cité le Rove, mais le maire a 89 ans. Garda, notre ville communiste, le maire a 83 ans. À Arles, effectivement, il est plus jeune, mais il est très œcuménique. Hein. Il ne met pas toujours en avance son étiquette communiste.
J'ai d'excellents rapports avec Aris Kavitchi.
D'accord, très bien. Light,
vous avez perdu Aubagne. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une logique de régression ? Est-ce que, encore une fois, vous avez 30 ans, tout juste. Est-ce qu'il n'y a pas une nécessité de rénovation, de redynamisation ? Est-ce que la gestion de l'existant...
Ah ben moi j'ai pas comme
je satisfaisant
comme je le disais tout à l'heure, j'ai pas accepté ce poste de secrétaire fédéral pour gérer l'existant. Je pense que quand on regarde la société française aujourd'hui, quand on regarde la réalité de notre territoire sur les Bouches-du-Rhône et sur Marseille, on se rend compte que l'existant n'est pas satisfaisant, mais on se rend compte aussi que le Parti communiste français est en capacité de porter les aspirations du plus grand nombre. La question et la difficulté qui nous est posée aujourd'hui, c'est comment on est entendu par l'ensemble de nos concitoyens sur notre territoire, et la deuxième, comment on fait en sorte que nos propositions paraissent crédibles par le plus grand nombre. Et donc c'est ça tout l'enjeu qui nous est finalement mis devant le nez. Donc on va essayer d'y travailler, mais moi j'ai y compris pour les municipales de 2020 de grandes ambitions. Moi je ne me résigne pas à la perte d'Aubagne en 2014. Ça a été dramatique pour le parti, mais ça a été encore bien plus dramatique pour l'ensemble des Aubagnaises et des Aubagnais. Fermeture de la MJC, chasse aux organisations syndicales à Aubagne, des choix municipaux de plus en plus contestables. On parle aujourd'hui de revenir sur la gratuité des transports en commun à une époque où on dit qu'il faut développer le transport en commun pour lutter contre l'émission de gaz à effet de serre, etc. Vous voyez bien qu'il y a des choix derrière les organisations politiques et que ces choix, eh ben finalement, ils impactent frontalement les populations qui ont à les subir.
Le PC et ses élus municipaux du 13 se sont toujours opposés à la construction de la métropole telle qu'elle elle se dessine et... la métropole va avoir lieu, enfin le gouvernement
elle a lieu
et le calendrier se précise, on y est. Alors là, ce contexte institutionnel, il faut faire avec, c'est toujours pour vous une mauvaise chose, comment faire alors?
Le Parti communiste français, on est, si vous voulez, un peu les héritiers aussi de la Révolution française et d'un schéma d'organisation territoriale qui donne un rôle prédominant aux communes. Et au département et à l'État-nation. Or, aujourd'hui, il y a une autre logique qui est à l'œuvre, notamment par le président de la République, qui est de dire... plus de pouvoir aux communes, on supprime les communes, il y en a trop en France, et donc on crée des métropoles, on crée des super régions, et ensuite l'autre échelon c'est l'Europe. Pour nous communistes, la métropole est une réalité aujourd'hui. On a bien fait hier de se battre contre la métropole parce qu'on éloignait les centres de décision des citoyens, on faisait prendre à la métropole des décisions pour lesquelles les citoyens n'avaient pas voté en réalité parce qu'ils avaient eu un maire qui a de moins en moins de prérogatives. Donc ça c'est fortement dommageable. Aujourd'hui la position du Parti communiste français face finalement à l'usine à gaz qu'est la métropole, et c'est pas moi qui le dis, y compris des gens de droite, ils disent cette métropole elle fonctionne pas, y compris des fonctionnaires de la métropole qui disent cette métropole ne fonctionne pas. Donc aujourd'hui ce que nous disons c'est la métropole doit se recentrer sur ses quatre compétences de base et arrêter de chercher systématiquement à absorber de nouvelles compétences des communes. Et donc ça, se recentrer sur ces quatre compétences, développement économique, transport, environnement, écologie, recherche, université, et ensuite sur l'ensemble des autres compétences, de les redonner au conseil de territoire pour qu'on ait plus de proximité et qu'on ait des élus qui puissent, dans la proximité, gérer les affaires qui ont relatives à leur commune, tout simplement.
Restons dans la métropole, un des problèmes, c'est celui des transports. Elle a même été créée pour ça, la métropole, pour faciliter un petit peu ces transports, améliorer et harmoniser l'offre des transports. Pour l'heure, seul un abonnement unique a vu le jour sur le réseau métropolitain. Pourtant, en décembre 2016, la métropole a voté un plan de développement de transport ambitieux, baptisé Agenda de la mobilité, qui prévoit 3,4 milliards d'euros d'ici à 2025. Autant dire qu'on n'y est pas du tout. Il y a eu l'abandon du Valtram il n'y a pas très longtemps. Qu'est-ce qu'on dit là, finalement, cette métropole, échec annoncé ?
Ah ben moi je crois que si on continue dans cette direction, effectivement c'est un échec annoncé, parce qu'aujourd'hui la perception des citoyens des Bouches-du-Rhône, quelle est-elle ? J'en discutais encore avec des élus de Martigues il n'y a pas longtemps, c'est que sur la question des transports précisément.
Alors quelle solution ?
Juste, je termine là-dessus, sur la question de transport, on dit à une ville comme Martigues qui avait la gratuité du ramassage scolaire, on dit ben maintenant il va être payant. Qu'est-ce qu'on dit aux habitants d'Aubagne et du Pays de l'Étoile ? On dit ben il y avait le Valtram, vous n'allez plus l'avoir. Qu'est-ce qu'on dit au pays toujours de l'Étoile et d'Aubagne sur la gratuité de transport ? On dit oui mais peut-être qu'il va falloir que ça devienne payant. Donc finalement la perception qu'ont les citoyens de cette métropole, c'est une métropole qui revient sur l'ensemble des progrès sociaux qu'on a réussi à créer ces 10 dernières années, ces 15 ou 20 dernières années. Alors la solution, comme je le disais, c'est de revenir sur des compétences socles. Je disais transport, développement économique, environnement et recherche, et que sur les autres compétences, on donne ces compétences-là aux territoires, territoires qui ont été élus par les citoyens,
mais sur les transports, là, apparemment, il y a une difficulté, puisque 3,4 milliards ne seront pas atteints, on n'arrive pas à les trouver, ces 3,4 milliards. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait porter le poids sur les entreprises, on augmente l'indice de 2 à 2,80, comme
moi,
à Paris.
Moi, je pense qu'il y a un certain nombre de leviers à voir. Le premier, c'est véritablement de mener une véritable bataille contre la baisse des dotations de l'État. C'est-à-dire que tout le monde dit dans son coin, c'est un scandale, 13 milliards d'euros de baisse de dotations aux collectivités. Vous vous rendez compte ? 13 milliards d'euros. C'est cet argent qui manque au développement des communes, des territoires, etc. Quand on a le président Hérault à l'époque qui nous dit il va falloir faire les travaux sur la gare Saint-Charles pour avoir une gare souterraine pour les TER, etc. C'est une bonne idée parce qu'aujourd'hui on a une gare Saint-Charles qui est engorgée entre les lignes à grande vitesse et les TER qui occasionne des retards, des pertes de lignes, etc. Aujourd'hui il faut qu'on y aille. Mais le président Hérault il nous dit l'État propose ça 2,5 milliards d'euros. Sauf que vous les avez eu, vous, les 2,5 milliards d'euros. Donc, aujourd'hui, Jean-Claude Godet, Martine Vassal, tout l'ensemble des élus, quel que soit le clan politique, plutôt que de se renvoyer la balle sur un certain nombre de sujets, on aurait aussi crié non à la baisse des dotations d'État et plus de moyens. Si on considère que la deuxième ville de France a besoin d'un projet de développement en termes de transport ambitieux, il faut que l'État il puisse aussi intervenir là-dessus.
En même temps, l'État réplique qu'il faut faire des économies. Il y a beaucoup de gaspillage. D'ici au 30 juin, par exemple, la métropole doit contractualiser avec l'État pour espérer voir maintenir jusqu'en 2022 ses précieuses dotations financières. En contrepartie, et c'est là que le bât blesse, les dépenses de fonctionnement ne devront pas augmenter de plus de 1,2% d'une année sur l'autre. Et là, tout le monde crie que c'est impossible. Pourtant, une demande de recentrage des dépenses publiques, non ?
Mais écoutez, vous posez la bonne question. Vous dites, l'État, il dit qu'il ne peut pas et il a une volonté de baisse parce qu'il y a une baisse des recettes. Effectivement, il y a une baisse des recettes. Mais après, l'État, il a fait des choix dans le budget 2018 de cadeaux de plus en plus grands, notamment auprès des entreprises. 20 milliards d'euros, je le disais tout à l'heure, de transformation du CICE en exonération de cotisations sociales. Je pense à la réforme de l'ISF, 4,5 milliards d'euros. Je pense à une multiple niche fiscale et d'exonération de cotisations pour plus de 200 milliards d'euros. Et on n'en a pas encore parlé. Mais les 80 à 100 milliards d'euros par an d'évasion fiscale. Quand c'est que l'État va décider de lutter contre l'évasion fiscale? Vous imaginez 80 à 100 milliards d'euros d'évasion fiscale. Et dans le même temps, on dit baisse des dotations de 13 milliards d'euros pour les communes. De qui se moque-t-on? Et à chaque fois qu'il y a une instruction qui peut être faite sur un individu ou une entreprise pour l'évasion fiscale, on a le verrou de Bercy. On a finalement Bercy qui dit non, on n'enquête pas, secret d'affaires, etc., etc. C'est insupportable. C'est insupportable.
Michel. Alors, autre dossier, locaux, et qui pose peut-être la question du rapport du Parti communiste à la question de l'écologie et de son lien à l'industrie. Oui. Je pense à Total Lamed et à cette promesse d'en faire une raffinerie qui produira de l'essence fabriquée avec de l'huile de palme, ce qui pose problème pour de nombreuses organisations environnementales. Et finalement, ça va se faire malgré tout, malgré les consignes européennes. Sur ce dossier, vous pensez qu'il y a un problème d'investir de maintenir de l'activité avec de l'huile de palme, ou vous pensez que bah, finalement c'est quand même pas mal parce que ça va maintenir l'emploi?
Alors moi je suis pas à la fois un dogmatique en train de dire il faut maintenir l'industrie coûte que coûte parce que ça préserve des emplois, et à l'inverse je suis pas non plus un dogmatique qui dit il faut fermer toutes les usines parce que ça pollue et qu'on a besoin d'avoir un environnement. Je pense qu'il faut avoir une position équilibrée, et cette position équilibrée, quelle est-elle? C'est de dire à un moment donné, on a des industries sur l'ensemble de notre territoire, je pense notamment au golfe de Fos, je pense à la Vera, je pense y compris les entreprises du côté de Gardanne, etc.
On pourrait parler des Bourouges.
Oui, des Gardanne, Alteo, oui. Etc. On peut en parler, je suis assez tranquille sur le sujet. Ce que je dis, c'est qu'il faut, à un moment donné, que les pouvoirs publics contraignent les industriels à moderniser l'appareil productif. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, notamment sur le golfe de Fos, ce qui se passe, c'est qu'on a des appareils productifs, des usines qui sont vieillissantes, où il n'y a eu aucun investissement fait ces 30 ou 40 dernières années, et qui rejettent énormément de particules fines, de gaz à effet de serre dans l'air, avec des répercussions qu'on connaît sur l'environnement, sur les populations qui vivent dans les pourtours. Donc ça, il faut contraindre ces industriels. Et en contraignant ces industriels sur la modernisation de l'appareil productif, on réduit ainsi l'impact environnemental. Je dis ça pourquoi? Parce que prenons l'exemple d'Alteo, par exemple. Alteo est un exemple intéressant. Les Bourouges qui rejetaient, il y a encore 15 ans de ça, je ne sais plus combien de grammes, je crois 4 ou 5 grammes par litre d'eau, d'alumine dans la mer Méditerranée. Aujourd'hui, on est à 0,1 gramme d'alumine. Alors, on peut dire c'est toujours trop.
Certains disent c'est trop.
Non, mais j'entends bien cette discussion-là. Effectivement, on peut toujours moderniser, on peut toujours réduire. Je suis en faveur de la réduction le plus possible, effectivement. Mais c'est parce qu'il y a eu une mobilisation populaire, y compris du Parti communiste français, sur ces enjeux-là, et notamment à Gardanne, qu'on a réussi à imposer à un industriel des nouvelles normes environnementales pour qu'ils réduisent drastiquement l'impact environnemental. Je dis ça pourquoi? Parce qu'il ne s'agirait pas non plus qu'on dise, eh ben on les ferme sur notre territoire, parce que c'est un peu la facilité, au moins on ne les a pas en face de nous, mais ces industriels-là, que font-ils? Ils vont en Inde, pour la plupart, avec des normes environnementales quasi inexistantes, où une usine comme Alteo pourrait rejeter 5, 10, 15 grammes par litre d'eau, etc. Et est-ce qu'on s'en sentirait plus? Moi, je fais partie de ceux qui disent qu'on est dans un monde fini et que la pollution qui se passe dans un endroit du monde impacte l'ensemble de la planète. Et qu'on doit toutes et tous lutter sur l'ensemble de la planète pour faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de pollution et de rejet de gaz à effet de serre et de particules fines.
Total, Lamed, huile de palme, pourquoi pas, vous dites. En attendant de trouver mieux, Lamed, l'huile de palme, Total, vous n'êtes pas exprimé sur le fond.
Ah, sur Total, Lamed, l'huile de palme, je vous avoue que je ne suis pas un spécialiste de l'huile de palme. Et donc, voilà, mais après... Voilà, j'en dirai pas plus parce Pourquoi que, pas. Sincèrement, c'est pas de la langue de bois.
Mais... Alors, l'émission arrive bientôt à son terme. Un enjeu, alors même il est à 8 mois, mais 8 mois, ça passe vite. Un congrès extraordinaire parce qu'il a lieu un an plus tôt pour le Parti communiste. Et finalement, on va dramatiser un peu les choses, mais peut-être pas tant que ça. C'est l'avenir même de ce parti qui va être posé lors de ce congrès, de sa confortation ou de sa disparition. Je résume bien les enjeux.
Alors, il est avant tout extraordinaire, non pas parce qu'il se tient un an plus tôt, mais il est extraordinaire dans sa conception, j'allais dire. C'est la première fois, en tout cas dans l'histoire récente du Parti communiste français, je ne sais pas depuis 1920, mais en tout cas dans son histoire récente, qu'on a un congrès qui se prépare de cette manière-là. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir un texte qui est proposé par une direction nationale sortante, qui va fixer les orientations pour les 3 années à venir, on a pendant un an consulté l'ensemble des communistes sur un certain nombre de thèmes pour qu'eux-mêmes puissent faire remonter des contributions et des orientations. Et l'ensemble de ces de ces orientations contributions constitueront finalement la base d'un texte qui sera porté par notre direction nationale. Donc finalement, on renverse un peu la pyramide. On a des orientations qui ne viennent plus d'en haut, mais on a des militants qui s'approprient clairement des orientations du parti. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement nouveau et d'extrêmement intéressant à mon sens. On parlait tout à l'heure de besoin de renouvellement du Parti communiste français. Je pense que ça en fait partie, de renouvellement y compris dans ses pratiques militantes et dans ses pratiques dirigeantes. Alors effectivement, le congrès du mois de novembre revêt un caractère important pour notre organisation. Moi, j'y vois plutôt un congrès de la reconquête. Il a cette vocation-là, en réalité, de faire en sorte que notre force politique redevienne une force dominante, une force majeure dans ce pays. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y a la place pour un parti communiste français dans une société où les inégalités sont de plus
avec
en plus criantes.
Avec à sa tête, puisqu'on arrive au fin de l'émission, rapidement, avec à sa tête toujours Pierre Laurent ou quelqu'un d'autre?
C'est une éventualité. Pierre Laurent lui-même disait qu'il jouerait le rôle que les communistes décideront de lui faire jouer. Donc, nous verrons. Mais moi, je pense que c'est finalement...
À titre personnel,
c'est qu'il peut faire un bon secrétaire national comme il l'a fait dans la période, mais ce qui doit prédominer, c'est l'orientation et notre contenu politique. Et que c'est notre contenu politique et ce que nous serons en capacité de renouveler chez nous-mêmes qui sera en capacité de redonner vie à ce parti communiste
français. En septembre, il y avait un nom qui circulait, peut-être pour lui succéder, c'était celui de Pierre Dharréville, que vous connaissez bien. Ça serait une bonne idée, Pierre Dharréville, à la tête du parti.
Écoutez, moi, je n'ai pas entendu cette rumeur-là au mois de septembre, mais vous êtes sûrement mieux informé que moi.
Oui, allez-y.
Donc Pierre Dharréville aujourd'hui, pour le coup...
Son nom a été mentionné dans pas mal de journaux nationaux.
Pierre Dharréville fait partie des députés de qualité que nous avons. Il fait un travail remarquable, notamment sur sa circonscription et même plus largement à l'Assemblée nationale. Mais je crois que pour l'heure, nous avons intérêt à travailler sur le contenu avant même de parler des noms. Justement de ça dont les gens commencent à en avoir marre.
Les discussions commencent à avoir lieu. Il y a plusieurs militants, des trentenaires qui ont signé un appel. Ils sont plutôt franciliens. Mais qui envoie, ils dénoncent, ce sont des communistes qui s'expriment, les difficultés stratégiques et qui parlent de gâchis d'énergie, qui disent qu'un doute se répand sur l'utilité des actions militantes, qui disent que les communistes ont toujours un coup de retard, qui manquent de lisibilité et qu'il y a un risque s'il n'y a pas clarification des objectifs, des stratégies d'alliance, qu'il y a un risque de dissolution et de disparition de ce parti. Vous n'êtes pas signataire de ce texte?
Non, je ne suis pas signataire de ce texte.
Qu'est-ce que vous avez envie de leur répondre à ces jeunes trentenaires du Parti communiste qui veulent comme ça et qui s'inquiètent, quoi.
Mais l'inquiétude, elle est légitime après l'année 2017 que nous avons vécue, même si nous avons eu une belle victoire. Vous le rappeliez tout à l'heure, 11 députés, nous en avions 7 dans la précédente mandature. Donc on a eu malgré tout des victoires dans cette année 2017, mais il y a un certain nombre d'inquiétudes qui arrivent. Le Congrès est fait justement pour que chacun puisse exprimer à la fois ses doutes, ses colères, mais aussi les perspectives qu'il veut pour ce parti. Donc que les bouches s'ouvrent.
Très légitimiste.
Non, mais moi que
presque apparatchik, comme disait en ouverture de l'émission.
Pour le coup, pas du tout. Mais moi que les bouches s'ouvrent dans un congrès du Parti communiste, c'est plutôt bon signe et c'est signe véritablement d'un congrès de qualité.
Que ce soit les marcheurs, que ce soit les insoumis, tous disent que la forme parti est obsolète. Ils parlent de mouvement, il faut créer autre chose. Vous êtes membre du Parti communiste, est-ce que ce Parti communiste doit aussi inventer une autre forme?
Alors, moi, ce qui m'amuse entre guillemets, c'est qu'à la fois tous disent la forme parti est obsolète et tous essayent de se structurer en parti. Donc, il y a un petit paradoxe. Effectivement, moi, je considère qu'il y a besoin de la forme parti, mais qu'on a aussi besoin, dans un monde qui bouge aussi vite, d'avoir un peu de souplesse. Donc, il faut inventer des structures à côté des partis qui puissent rassembler des citoyennes et citoyens qui n'ont pas forcément le souhait de franchir le pas d'adhérer à un parti politique.
Beaucoup de responsables politiques de droite, mais aussi de gauche, se disent choqués de voir une responsable de l'UNEF, le syndicat étudiant, porter le foulard. Est-ce que vous, ça vous choque, afficher ses convictions religieuses quand on est responsable syndical ou politique? Est-ce que c'est incompatible? On a tous l'exemple en tête de Valérie Boyer, ici, qui porte une croix, fièrement.
Oui, c'est un très bon exemple, celui de Valérie Boyer. J'utiliserai pas le terme de choqué, mais pour le coup, moi je pense que chacun est libre de faire ce qu'il entend. Après, c'est aux militants de l'UNEF qui prennent la
décision. Non, mais vous, personnellement, vous allez quand même nous donner une opinion. On a fait une heure. On n'arrive pas à avoir votre opinion. Donc,
sur ce sujet-là, moi je m'immisce pas.
Est-ce que vous êtes choqué ou pas?
Choqué,
Porter le foulard.
Choqué, je suis pas choqué. Il n'y a pas plus clair comme réponse.
Allez, dernière question et puis il faut arrêter. Vous disiez que tout à l'heure vous pensiez déjà au municipal, Marseille, la ville, la capitale des Bouches-du-Rhône et de la région. Marseille, ville à gauche aux prochaines municipales, une alliance communiste, insoumise, scénario réaliste ou totalement
Ah, mais moi, je pense que dans une ville comme Marseille, où vous avez 25% de la population qui vient du seuil de pauvreté, où on a une ville qui, à l'élection présidentielle, ou à chaque élection intermédiaire en dehors des municipales, est en capacité de donner à voir qu'elle est plutôt en réalité une ville de gauche, mais avec ce paradoxe-là, finalement, d'avoir un maire de droite depuis presque 20 ans maintenant.
23 ans.
23 ans, pardon. Donc, pour le coup, on est dans cette situation où, sur Marseille, l'unité la plus large possible à gauche peut faire, justement, changer de mairie, changer de bord à la mairie de Marseille. Donc, les communistes, on y travaillera. Mais encore une fois, avant tout sur le contenu, nous allons, dans les jours qui viennent, faire parvenir 20 propositions sur 4 sujets thématiques différents qui doivent servir de base de discussion à l'ensemble des forces de progrès de cette ville. Et on verra ensuite comment on peut travailler ensemble.
Jérémy Vaki, je vous remercie.
Merci. Allez, à vous.
Bonne manifestation.
Merci.
On se retrouve le mois prochain. Bye.
La Grande Tchatche, le Ravi, Radio Grenoble.